Tout commence là, in utero. Nous venons tous de là. Nous avons tous été une cellule, puis deux, quatre, huit, puis des milliers de milliards de cellules. Nous avons tous été des embryons, puis des fœtus. Nous sommes nés et nous sommes devenus des bébés. Quel bébé étiez-vous ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Non, hélas non. Nous ne nous souvenons pas de nous bébés. C'est l'une des plus grandes énigmes de la vie. C'est comment d'être un bébé ? Je m'appelle Zoé Varier et je vous propose de vous mettre à l'écoute des bébés. Et pour mieux entendre ce qu'ils ont à nous dire, peut-être faudra-t-il que vous fassiez appel à la part de bébé qui est en vous.
Voir un nouveau-né, c'est magnifique. C'est prendre l'humain à un état pur. Il vient de naître et donc c'est magnifique. Donc je ne peux plus lâcher. Je suis restée avec les bébés et avec les nouveau-nés. Je ne peux plus aller en arrière. Et ça, c'est fascinant.
Lola De Evia est chercheuse au CNRS, au Centre de neurosciences intégratives et cognition. Elle est membre aussi du Labo Bébé de l'Université Paris Cité. Dans l'épisode précédent de notre podcast, nous avons appris que les nouveau-nés ont des intuitions mathématiques et numériques et qu'ils ont une idée des quantités pourvu qu'elles soient suffisamment éloignées. Lola De Evia, elle, s'intéresse à la représentation des nombres dans l'espace. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi quand on trace une courbe ascendante, on le fait de gauche à droite? Drôle de question, et pourtant. Vous vous dites certainement que vous l'avez appris à l'école, que c'est le résultat d'un apprentissage, d'une convention. Et si ce n'était pas le cas? Pour répondre à cette question, Lola De Evia a cherché à savoir de quelle façon les nouveau-nés se représentent les nombres dans l'espace. Que savent les nouveau-nés de l'espace et des nombres?
J'étudie en Espagne et je suis espagnole. Et donc là, j'ai fait mes études de psychologie, je me suis spécialisée sur les sciences cognitives. Mais j'ai commencé à travailler avec des patients avec la neuropsychologie. On peut comprendre la cognition avec des gens qui ont quelques systèmes ou des habiletés qui ne fonctionnent plus. Et là, je suis partie après en Milan, à l'Université di Milano Bicocca. Et là, j'ai commencé à faire mes études sur l'espace et les nombres chez les adultes. Et là, je suis partie avec Elisabeth Spell, qui est à Harvard. Et là, j'ai commencé dans le monde des bébés. Bien, c'est magnifique. Et ça te permet de répondre à des questions magnifiques, des origines, parce qu'avec les adultes, on peut tout avoir appris. On a une culture, on est très complexe. Et les bébés sont magnifiques, donc on peut reprendre à des questions des origines, bien sûr.
Des origines de la cognition.
Des origines de la cognition. Et après, quand je suis arrivée à Paris, j'ai eu accès, grâce à Arlette Streri, aux nouveau-nés. Et donc là, c'était encore plus magnifique, parce que déjà, les bébés de 8 mois me semblaient trop vieux. Je disais non, parce qu'ils ont eu 8 mois de vie, des stimulations, leur entourage peut modifier leur cognition. Et donc, il me semblait, ils sont déjà contaminés, les bébés de 8 mois. Et donc, voir un nouveau-né, c'est magnifique. C'est prendre l'humain à un état pur. Il vient de naître. Et donc, c'est magnifique. Donc, je ne peux plus lâcher. Je suis restée avec les bébés et avec les nouveau-nés. Je plus à aller en arrière. Et ça, c'est fascinant.
L'objet de la recherche de Lola De Evia, c'est justement la représentation des quantités, elle cherche à comprendre le lien entre espace et nombre. La capacité à discriminer les quantités est fondamentale pour les humains.
C'est très important de pouvoir se représenter la quantité numérique.
Et pourquoi c'est très important ?
J'imagine que dans la nature, c'est très important de savoir si tu as beaucoup de ressources, peu de ressources. Si le groupe d'animaux qui vient vers toi est plus un numéro nombreux que ce que tu as, si tu dois fuir, si tu dois attaquer, c'est la survie.
C'est basique, c'est-à-dire de savoir discriminer les quantités, c'est basique et ça, certainement, c'est ça qui nous a permis de survivre. Et c'est pour ça qu'on le partage avec d'autres espèces.
Mais comment les êtres humains se représentent les quantités ? Le neuroscientifique Stanislas Dehaene a démontré qu'il existe chez les adultes une ligne numérique mentale. Mais qu'est-ce que c'est qu'une ligne numérique mentale ? C'est la représentation que nous avons des nombres dans l'espace. Stanislas Dehaene a démontré que nous, adultes, plaçons les plus petites quantités à gauche et les plus grandes à droite. Pour moi qui suis gauchère et qui ai du mal à reconnaître la gauche de la droite, tout cela me semble bien compliqué. Si cela n'est pas simple pour vous non plus, l'idée essentielle à retenir, c'est petite quantité à gauche, grande quantité à droite. On continue ? Nous savons donc comment les adultes se représentent les quantités. Mais quelle est l'origine de cette représentation ? C'est la question que s'est posée Lola de Evia.
Donc, l'idée, au début, c'était que l'origine de cette représentation, c'était l'écriture, aller à l'école, comment on représentait dans l'école les nombres, comment on lit.
C'était culturel et que c'était lié à un apprentissage.
Exactement.
Or, ce que vous avez démontré, vous...
Alors, moi, j'arrive et je dis, je pense qu'il y a quelque chose plus fondamental. Bien sûr, le rôle de la culture, l'apprentissage, on ne peut pas le nier, il est là. Je pense qu'avant tout ça, il y a quelque chose très fondamental qu'après la culture va ou renforcer ou moduler.
Et donc, vous avez voulu savoir l'origine de cette représentation spatiale des quantités.
C'est ça. Pour nous, ça vient d'où ?
Pourquoi on représente les quantités spatialement comme ça ?
Et
c'est ça votre question ?
Dans mon cas, pourquoi on utilise l'espace pour représenter les quantités ? Ça sert à quoi ? Pourquoi on fait ça ? Est-ce qu'on l'a appris ? Est-ce qu'il y a quelque chose de fondamental ?
Lola de Evia a voulu savoir si les nouveau-nés se représentent aussi les petites quantités à gauche et les grandes quantités à droite. La question semble folle, vous ne trouvez pas ? Lola de Evia a donc testé en maternité des bébés qui venaient à peine de naître. Et cela n'a pas été facile, même pas facile du tout.
Non, c'est pas facile et surtout ça prend des années à attendre les bébés qui se réveillent, qu'ils pleurent pas, surtout qu'ils se réveillent. Parce que normalement quand ils se réveillent, ils veulent manger, mais bien sûr, je vais pas les prendre pendant quand ils veulent manger parce qu'alors ils vont pas être contents, mais après ils vont s'endormir sur la maman. Donc c'est très difficile, mais parfois ils mangent, ils restent
éveillé.
Et c'est là qu'on les prend, avec la maman bien sûr, et les amène. Et on a maximum 3 minutes de stimulation pour ne pas perdre tous les bébés qu'on essayait de tester. Et là, c'est magnifique et c'est magique même pour les mamans, parce que quand on stimule les bébés auditivement et visuellement, vous les voyez comme ils s'intéressent à l'information. Et même les mamans restent « Ah, mais regardez comme elles regardent la tête que le bébé fait !» C'est très, très beau à regarder.
Concrètement, quelle méthodologie de recherche Lola de Evia a dû mettre en place pour tester des nouveau-nés qui n'avaient que quelques heures d'existence ?
On les familiarise pendant un temps court, très court, une minute, avec une information. Et l'idée, c'est qu'ils vont la rechercher après dans des stimuli successifs. D'accord ?
Et là, je vois, donc on est, parce que vous montrez tout ça aussi sur l'écran de votre ordinateur, et là, on est un bébé de 7 heures à...
Là, ça, je ne sais pas exactement l'âge, mais il ne peut pas être plus... Alors, le plus jeune que j'ai testé, c'est 6 heures après la naissance. Et le plus, disons, vieux, c'est 72 heures. Donc, c'est les 3 premiers jours de vie. Dès qu'ils sont nés, quand la maman reste à la maternité, les 3 jours qu'elle reste, c'est là qu'on on essaye de les faire participer à nos études.
Donc là, j'ai un tout petit bébé devant moi, un tout petit bébé sur cet écran d'ordinateur qu'on a installé.
Et donc, l'âge représente ce qu'il voit devant lui. Donc, lui, il est en face d'un écran, comme celui-là, et il entend... Il entend une série de syllabes, toujours 6. Et en même temps, il y a un objet visuel qui se passe dans le centre de l'écran. Le bébé regarde, vous voyez qu'il regarde.
Donc, le nouveau-né est familiarisé. Il a regardé pendant une minute un petit rectangle multicolore qui se déplace sur un écran et il a entendu des sons de 6 syllabes. Pour ces expériences, Lola de Evia s'est appuyée sur les résultats des recherches de Véronique Izard, que vous avez entendu dans les épisodes précédents de notre podcast. Petit rappel. Véronique Izard a démontré que les nouveau-nés ont des intuitions mathématiques et qu'ils savent discriminer les quantités pourvu qu'elles soient suffisamment éloignées. Reprenons maintenant l'expérience de Lola de Evia. Nous en étions à la familiarisation des nouveau-nés avec 6 syllabes et un petit rectangle.
Yo, 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 yo.
Et là, Lola de Evia fait entendre ça au bébé. Le nombre de syllabes des sons a été multiplié par 3. On entend donc 18 syllabes. Et sur l'écran, on voit apparaître le même rectangle multicolore, mais 3 fois plus grand.
Quand ces minutes sont passées de stimulation, je fais le triple, donc je vais faire 18 syllabes maintenant. Je sais qu'il sait que ça veut dire plus grand, abstraitement, et je vais le présenter avec aussi soit une ligne qui reste la même, comme avant, un rectangle qui n'a pas changé, comme avant, ou un rectangle qui... Comme la numérosité, il a aussi augmenté 3 fois. Et maintenant, il est 3 fois plus grand comme les numérosités. Et donc, je ne sais pas si j'ai la vidéo là. Peut-être non, parce que je voulais aller vite dans ma présentation. Mais imaginez, c'est exactement la même chose. C'est juste que maintenant, il y a 18 syllabes au lieu de 6. Et le bébé regarde 2 fois cette 18 syllabes avec 2 objets. Une fois avec le même objet d'avant, une autre fois avec l'objet plus grand. Et il regarde beaucoup plus longtemps l'objet plus grand.
Donc,
ils ont préféré, ils ont cherché la congruence, parce que les nouveau-nés cherchent la congruence toujours.
Et la congruence, c'est quoi ?
La congruence, c'est j'ai l'expérience qu'il y a une quantité qui a augmenté, et maintenant, je cherche visuellement dans le monde ce que va avec ce changement. Et donc, il préfère de regarder, il regarde plus longtemps, l'objet visuel qui correspond à ces changements de quantité. C'est magnifique.
Magnifique. Incroyable, même.
C'est pas bien que moi, je l'ai dit, mais c'est magnifique.
Mais si, c'est bien d'avoir une chercheuse qui est contente.
Non, mais c'est magnifique. Ils font ça. Les humains, dès la naissance, on a ces capacités d'abstraction magnifiques. Et on pense toujours qu'on doit tout apprendre, les humains. Et non, il y a des bases dans la cognition très abstraites qui nous permettent de construire des choses beaucoup plus sophistiquées.
Cette idée est essentielle pour comprendre les bébés. Les nouveau-nés cherchent du sens, ils recherchent la congruence. Mais qu'en est-il de leur représentation des nombres dans l'espace ? Est-ce que les nouveau-nés place aussi dans l'espace les petits nombres à gauche et les grands nombres à droite.
Et donc après, ce qu'on a fait, j'ai dit, d'accord, je sais que quand tu es stimulé avec une quantité grande, tu t'attends que l'objet soit grand. Maintenant, je veux voir si quand je te stimule avec une quantité grande, un objet grand, et qu'après, je te teste avec une quantité petite, cet objet petit que tu t'attends de voir, parce que je le sais, tu préfères qu'il soit à la gauche ou à la droite. Et la même chose pour quand je te stimule avec quelque chose de petit et je te teste avec quelque chose de grand. Est-ce que c'est un nouveau objet grand, tu le veux, à la gauche ou à la droite? Et qu'est-ce qu'ils ont dit?
Les nouveau-nés encore.
Les nouveau-nés.
On est encore de 7 heures à 3 jours hein, de vie.
Exactement. Et là, on a testé 80 nouveau-nés. Ça nous a pris 3 années de testing. Et ce qu'on a vu, c'est que le bébé, quand il était stimulé avec le grand, et je l'ai testé avec le petit, il regardait plus l'objet quand il était à la gauche. Et vice-versa, si tu es en train de me montrer quelque chose de petit et que j'expérimente que ça augmente, je préfère que cette augmentation soit à la droite.
Ce qui veut dire que les nouveau-nés naissent avec cette ligne mentale numérique où l'on pose les petits nombres à gauche et les grands à droite. C'est-à-dire qu'on est avec cette représentation spatiale des quantités. Petit à gauche, grand à droite. Voilà. Et les nouveau-nés aussi.
Exactement. Donc, c'est le nombre à la naissance qui est associé à la gauche pour petit et à la droite pour grand.
C'est dingue.
C'est dingue.
Je ne peux m'empêcher d'insister sur ce que Lola de Evia a démontré. La ligne mentale numérique dans laquelle les petites valeurs sont associées au côté gauche de l'espace et les grandes valeurs au côté droit est déjà présente dans le cerveau des nouveau-nés. C'est ce qu'on appelle une connaissance noyau, résultat de l'évolution et qui n'a nécessité aucun apprentissage. Les nouveau-nés représentent les petites quantités à gauche et les grandes quantités à droite. Cette représentation des quantités dans l'espace est donc innée. Nouvelle question. Cette représentation innée des quantités est-elle partagée par d'autres espèces?
Là, je vous montre, ça c'est
des
abeilles qui font la même chose et des
poussins.
Et des poussins. Le poussin va avoir un biais, il va aller plus à la gauche de la quantité plus petite et plus à droite dans la quantité plus grande. La même méthodologie a été adaptée plus récemment pour les abeilles, qu'elles ont aussi une représentation innée de la quantité. Les abeilles vont avoir une association petite quantité gauche, grande quantité droite.
La capacité de discriminer et de se représenter les informations de grandeur est donc présente chez le nouveau-né humain et elle est partagée par d'autres espèces animales. Mais qu'en est-il des enfants qui vivent dans une culture où l'on écrit de droite à gauche? Est-ce que la culture va moduler ou renforcer cette représentation innée des quantités?
Ça, c'est la grande question ouverte encore, parce que je n'ai pas eu d'accès à des bébés dans des laboratoires, par exemple, en Israël.
Non, mais au Moyen-Orient, des cultures où on parle arabe, par exemple.
Non, je n'ai pas d'accès à des bébés.
Ça serait intéressant, parce que quand même.
Ah oui, mais tout le monde sait que je suis en recherche de baby labs de tout le monde pour essayer ça. Je n'ai pas d'accès à d'autres labos dans d'autres pays, mais je teste à la maternité Bichat. Et normalement, il y a une variété de cultures très, très grandes, en fait.
Oui, donc si vous les suiviez pendant un an, vous auriez déjà un aperçu, vous pourriez avoir quelques indications sur ça.
Je pense que, bien sûr, on va prendre note des gens qui sont nés des parents arabes, qui maintiennent leur façon d'écrire et de lire. Et je pense qu'on va traquer toute cette information. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas aller dans un autre pays,
mais
ça va peut-être déjà nous annoncer quelque chose.
Mais ça, c'est plusieurs années de travail, j'imagine.
Ah oui, ça va me prendre 6 ans, au moins. Oui. C'est beaucoup de gens qui vont participer.
Quelle patience!
Ah oui, mais c'est d'une beauté...
Vous parlez beaucoup de beauté. C'est la beauté de quoi?
C'est la limitation de mon vocabulaire en français. Mais j'essaie de transmettre que c'est tellement fascinant, que c'est intéressant, que ça, c'est nous comprendre à nous-mêmes. Et pour moi, c'est très beau. je ne trouve pas un autre mot. Oui, il faut se comprendre.
Et ça, comprendre l'être humain, c'est ça que vous voulez, l'origine.
Oui, je vais comprendre ça. Oui.
Dans le prochain épisode de notre podcast « Les super-pouvoirs des bébés », il sera question de rythme et de synchronisation.
Oui.
Pourquoi ces facultés sont-elles fondamentales et vitales pour les nouveau-nés? Écoutez bien. Parce que être en rythme, c'est déjà communiquer. Les super pouvoirs des bébés est un podcast documenté par Anna Massardier, monté par Karen Dehay, mixé par Basile Bocquer et Baptiste Collion, réalisé par Flora Bernard et Josépha Lebrun et écrit par Zoé Varier. Les super-pouvoirs des bébés est un podcast original de France Inter.